Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant 30 minutes pour discuter de l'actualité locale. Ce soir, Léo s'est rendu au Quai, théâtre occupé par des élèves en formation artistique et des professionnels de la culture. Au programme donc un reportage long format qui vous proposera un point sur leurs revendications et une chronique de la vie pendant l'occupation de ce lieu. En deuxième partie d'émission, c'est le retour de Louis pour sa chronique géopolitique du mardi. On discutera avec lui de la dette, où est-ce qu'on en est et où est-ce que l'on se dirige. Et je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous.
Voilà plusieurs semaines que des lieux culturels, principalement des théâtres, sont sous occupation d'élèves, de syndicats ou de professionnels de la culture. L'Ouest est largement concerné. Nantes, Laval, Saint-Nazaire, Tours et à Angers, depuis le 11 mars, des élèves du conservatoire occupent le Centre National Dramatique du Quai, en bord de Maine. Des professionnels se sont joints à eux, faisant du Quai un lieu d'occupation à part en France. Leur rapprochement a porté ses fruits à travers la création d'une école populaire d'auto-formation. Plusieurs questions se posaient. Pourquoi occuper le théâtre? Que se passe-t-il entre ces murs? Quelles sont les personnes mobilisées? Nous nous sommes rendus sur place pour mieux comprendre cette initiative, d'ailleurs soutenue par l'adjoint à la culture Nicolas Dufetel et Thomas Joly, directeur des lieux. Nous avons d'abord rencontré Sergueï pour parler de la genèse de l'occupation.
Salut Sergueï, vous occupez le quai depuis le 11 mars. Pourquoi avoir choisi ce mode de contestation?
Aujourd'hui en France, il y a un mouvement de contestation qui se passe de manière nationale. L'idée de base a été d'occuper par exemple l'Odéon. C'est le point de départ, c'est le point névralgique de cette lutte. Et le fait d'occuper aujourd'hui le CDN, donc le quai à Angers, c'est une évidence parce que ça fait suite au mouvement de départ et surtout que c'est un espace, comme c'est un centre dramatique national, c'est un espace ultra important et qui a un poids au niveau national beaucoup plus important qu'un théâtre municipal ou qu'une maison de la culture, même si tous ces lieux sont aussi impactés par les décisions gouvernementales qui sont prises en ce moment.
Quel a été le déclic au moment où vous vous êtes dit « il faut qu'on occupe », pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi c'est pas arrivé avant et pourquoi ça se passe maintenant finalement?
Le déclic en soi, il a mis du temps à se mettre en place parce que on s'est tous questionnés, autant professionnels qu'élèves. On s'est tous questionnés depuis le début du mouvement à se dire « comment est-ce qu'on peut rejoindre ce mouvement? Comment est-ce qu'on peut ajouter notre pierre à l'édifice ?» Au fil des jours, on s'est dit si on prend trop de temps, on va rater le coche et on va rater quelque chose de super important en fait. Et à partir du moment où quelques élèves ont commencé à se dire c'est parti, on le fait, on ne s'est plus posé de questions et il était évident qu'il fallait le faire, sinon on allait encore reporter, etc. C'est toujours cette idée un peu cette idée de procrastination. On voulait pas procrastiner encore plus longtemps pour vraiment rater ce rendez-vous qui nous semblait essentiel.
Pour le coup, vous n'avez pas vraiment le soutien de votre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Elle a jugé ces occupations dangereuses, inutiles. Elle a même parlé d'artistes qui piétinaient leurs outils de travail. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, et même le collectif qui occupe le quai en général?
On piétine pas notre outil de travail, parce que c'est notre outil de travail. À part marcher dans les lieux et en faire un lieu de création, un lieu de culture, un lieu vivant, ce qui n'est plus le cas depuis un peu plus d'un an. Je vois pas ce qu'il y a de dangereux à occuper un lieu et en refaire un lieu de vie, un lieu de culture, un lieu d'échange, de partage, un lieu de pensée, de dialogue, de débat. Il n'y a rien de dangereux en cela. Et si pour la ministre de la Culture, le danger, c'est de réfléchir et d'échanger et de vivre, moi, je trouve ça hyper grave comme façon de penser. Je me demande quelles sont les nécessités du gouvernement s'il en vient à dire ce genre de choses. Moi, je trouve ce genre de propos mais plus que problématique.
Les occupantes et occupants portent bien sûr des revendications. Alice, comédienne, et Audrey, chanteuse, demandent notamment le retrait de la réforme de l'assurance chômage et la réouverture des lieux culturels.
On parlait notamment d'abandon de la réforme de l'assurance chômage. Pourquoi vous portez cette revendication et quel impact aurait-elle sur le monde de la culture ?
Et ce qu'on sait, c'est que cette réforme, elle est délétère et qu'elle va vers une réduction des droits de chacun et de chacune. Donc, on y est opposé.
Cette réforme de l'assurance chômage concerne plus largement que les intermittents du spectacle, concerne vraiment beaucoup de salariés précaires. Donc, c'est une bataille qui va se faire dans plein de corps de métiers différents.
Le nerf de la guerre, que ce soit à l'échelle de la région mais aussi nationale, c'est la rouverture des lieux culturels et de formation. Comment ça pourrait être mis en place dans la région, d'après vous ?
Déjà, le nerf de la guerre, c'est pas la réouverture, en fait. Ça peut paraître paradoxal, mais nous, ce qu'on dit, c'est pas de réouverture sans droits sociaux. Aujourd'hui, pour l'instant, on ne sait pas si l'année blanche va être reconduite. On n'a pas de certitude par rapport à ça. Et sans la reconduction d'une année blanche, c'est plein de personnes qui vont se retrouver sans salaire demain, sans indemnisation chômage. Et la question, c'est aussi que la réouverture, elle va se faire certainement en différentes étapes. On a vu quand il y a eu une petite fenêtre pendant l'été que certaines tailles de salles peuvent ouvrir, d'autres non, que certaines professions peuvent jouer et d'autres non. On sait que les musiciens sont les plus impactés aujourd'hui. Même si ça réouvre, c'est un peu un faux problème parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vont continuer à pas travailler et parce que plus largement, c'est tout un secteur qui est endommagé. Donc, il y a des productions qui n'ont pas pu se faire, il y a des créations qui attendent d'être jouées et qui ne vont pas forcément rentrer dans les créneaux. Donc oui, le nerf de la guerre, c'est les droits sociaux. Et après, c'est aussi l'idée de peut-être réinventer des choses, parce que si demain on joue devant des jauges qui sont diminuées par 3 dans les salles, peut-être qu'on pourrait jouer plus de jours. Peut-être que dans ce cas-là, on pourrait avoir plus de travail salarié, qu'on puisse montrer encore plus de spectacles pour toucher un plus large public. Parce que si les jauges des théâtres sont divisées, il va falloir faire plus de représentations et plus de spectacles. En fait, sans un plan massif de relance de l'emploi, ça a pas de sens de rouvrir les salles. En fait, c'est plein de gens qui vont se retrouver sur le carreau.
La réforme de l'assurance chômage portée par le gouvernement comprend 2 volets. Le premier, qui entrera en vigueur le 1er juillet, est un changement dans le mode de calcul de l'indemnisation des demandeuses et demandeurs d'emploi. Le second, prévu pour octobre, consiste en un durcissement de l'ouverture des droits. 6 mois de travail sur les 2 dernières années seront requis pour bénéficier des droits, contre 4 aujourd'hui. L'UNEDIC, organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage, estime que près de 40% des bénéficiaires verraient leur allocation baisser de 20% en moyenne sur l'année par rapport au niveau d'aujourd'hui. La réforme, qui vise à réaliser 1 milliard d'euros d'économies annuelles, rencontre l'opposition de tous les syndicats. La CFDT dénonce une mesure, je cite, « injuste, anachronique, incohérente et déséquilibrée ». Le communiqué commun de la CFDT, de CFE-CGC, la CFTC, CGT et FO sont, je cite, « en profond désaccord avec le principe selon lequel la baisse des allocations inciterait un retour à l'emploi ». Pour les élèves, un premier pas serait l'octroi du statut d'étudiant, afin d'accéder à des droits qu'ils ne possèdent pas aujourd'hui, comme nous l'explique Julien, élève comédien au conservatoire.
La présence des élèves comédiens du conservatoire n'est pas seulement, ne donne pas seulement lieu à cette auto-formation que l'on a nommée. On a aussi des revendications, puisqu'on se considère et on l'espère bien sûr comme étant de futurs professionnels de la culture. Et notamment, la revendication principale est l'obtention d'un droit social pour nous élèves de conservatoire, avec l'obtention d'un statut étudiant qui donnerait droit à un accès au logement, à un accès aux bourses, à un accès à une sécurité sociale, puisqu'à ce jour, bien que notre formation soit post-bac, on est encore considéré comme des amateurs. Bien que notre formation artistique au conservatoire soit post-bac, donc comme des étudiants d'université par exemple, nous sommes considérés sur les traités de ministère, non pas comme des étudiants, mais comme des amateurs, c'est-à-dire comme une passion du mercredi après-midi pour des écoliers par exemple, ce qui nous pose évidemment d'énormes problèmes dans notre formation artistique, puisqu'on ne peut pas s'y consacrer pleinement, parce qu'on doit accumuler des jobs à côté pour pouvoir financer notre vie, avoir un logement, nous nourrir, acheter du matériel pour notre formation, des livres, des vêtements, et l'obtention d'un statut social de ce statut étudiant nous permettrait évidemment d'obtenir des bourses d'études pour nous consacrer pleinement à notre formation. Elle nous permettrait, dans une ville en plus qui est Angers, où le logement commence à poser problème, d'avoir un accès au logement beaucoup plus simple, d'avoir un accès à la sécurité sociale également. Ce serait vraiment une réelle avancée que de reconnaître notre formation.
En arrivant au quai jeudi 18 mars, deux groupes d'élèves répétés, encadrés par des professionnels du secteur. Ce rassemblement inaugure l'école populaire d'auto-formation d'Angers, un temps fort d'une occupation à l'emploi du temps chargé.
Il y a des AG qui se déroulent le midi, trois fois par semaine. Il y a aussi des plénières qu'on fait le matin pour parler de l'organisation, pour aussi parler des décisions qu'on aurait à prendre entre nous. Nous, les élèves du conservatoire, on avait l'envie de mettre en place une auto-formation pendant cette occupation, car on a plus cours au conservatoire. Donc les professionnels qui nous ont rejoints pendant l'occupation, ils sont là aussi pour mener ces ateliers qui sont ouverts à tout le monde et pour pouvoir combler notre manque de notre passion qui est le théâtre et la culture. Ce sont des intermittents, des compagnies de la région, mais il y a aussi des techniciens qui sont là. Par exemple, ce matin, il y a un comédien qui est venu nous faire un atelier sur le théâtre et le numérique. Des metteurs en scène, des comédiens. Il y a aussi l'ASTA, qui est une école de théâtre sur Angers, qui déplace leurs cours au quai pour qu'on puisse tous en bénéficier.
Nous, ici, la petite particularité, en fait, c'est qu'on a décidé de faire lutte commune entre professionnels et élèves, et en fait, de déclarer le quai comme un lieu d'auto-formation, école populaire et de création, tous ensemble. Donc, on vient vraiment pour avoir des moments de partage artistique, et on fait ensemble, on revendique et on fait ensemble. En fait, les élèves avaient impulsé une super dynamique avec ce lieu d'auto-formation. Ils faisaient appel à ce que des professionnels viennent leur donner des cours, et on a envie de rebondir sur cette énergie, d'aller plus loin. On a envie de partager encore plus avec eux et pouvoir défendre nos revendications au sein d'un centre dramatique national qui est aussi notre lieu de travail.
Non, mais l'idée de cette école populaire d'auto-formation, c'est que ce n'est pas qu'une solution du présent pour l'occupation, c'est aussi quelque chose qu'on souhaite mettre en place pour l'avenir, avec pourquoi pas chaque année la semaine de l'auto-formation qui permettrait de toujours questionner cette idée de la formation pour les élèves de filière artistique et évidemment de solidifier, du moins localement, le lien avec les professionnels, qu'ils soient artistes ou techniciens, puisque la professionnalisation est pour nous essentielle.
Le soleil couché, l'activité ne faiblit pas. Les artistes en auto-formation en profitent pour échanger, faire connaissance et imaginer des projets communs.
J'attaque ce soir ma sixième nuit, je crois. Et ça se passe plutôt bien. On a la chance de dormir au chaud. Et l'avantage des nuits, c'est qu'elles complètent les journées. C'est pas juste une nuit pour dormir. C'est aussi une nuit pour continuer les échanges, pour continuer les dialogues. Et ne pas trouver que des solutions la journée en assemblée générale ou en assemblée plénière ou en commission. C'est aussi en petit groupe à essayer de réfléchir dans des moments plus intimes que sont les soirées et les nuits, parce qu'on est évidemment moins nombreux que les journées. D'occuper la nuit, pour moi, à mon sens, c'est aussi l'idée de poursuivre, et que c'est une lutte en continu et qui prouve que vraiment on est prêt à ne pas lâcher et juste à ne pas venir la journée pour montrer qu'on a des revendications et que l'on n'est pas content et partir le soir. Enfin, pour moi, ce qui fait vraiment cohérence, c'est d'occuper le lieu à temps plein et montrer que tant que je serai ici, ça signifie en fait que je n'ai pas satisfaction de mes revendications. Pour l'instant, dans les élèves de filière artistique, on est une dizaine par nuit. Et c'est à la fois des élèves du conservatoire, des élèves de l'Académie supérieure du théâtre d'Angers, mais ça peut être également des élèves des Beaux-Arts, les musicologues de l'Université catholique de l'Ouest, les élèves du CNDC du Quai cherchent des solutions pour nous rejoindre. On est des filières, bien qu'on souhaite être les futurs acteurs de la culture, eh bien on ne se connaît pas finalement. On reste chacun dans son école. Et là, on voit bien que ces premiers jours d'occupation, cette première semaine déjà, nous a conduit à mener d'énormes liens et des projets.
Pour moi, la nuit, c'est aussi ce qui permet de... Enfin, c'est un moment de partage où justement, oui, la lutte continue, etc. Ça permet de continuer les discussions, mais ça nous permet aussi de nous rassembler et finalement d'apprendre à se connaître aussi en dehors de ce qui se passe la journée, comme on est beaucoup occupé en AG ou quoi. Et là, le soir, c'est aussi un moment pour se souder, apprendre à se connaître et aussi rigoler, enfin voilà, passer aussi un moment qui est quand même à part de la journée, je trouve.
Pour ses élèves, reprendre les cours après un an d'incertitude est un soulagement. Sergueï l'avait évoqué, Julien et Lucille nous le confirment.
Du côté des élèves du conservatoire à Angers, vous n'avez pas eu cours depuis le mois de mars 2020, donc ça fait un an pour certaines formations. Vous êtes parvenu à assurer un minimum de ce qu'on appelle la continuité pédagogique depuis un an où c'était vraiment le flou total, pas d'informations, pas de cours et un an à naviguer à vue.
Il y a eu une continuité pédagogique parce qu'il y a cette obligation de l'État d'avoir cette continuité pédagogique, mais c'est une continuité pédagogique qui a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes camarades sur le côté parce que c'est en distanciel. Comme tout le monde peut le penser, je tiens quand même à rappeler que le distanciel, on ne peut pas jouer, on ne peut pas répéter son texte, on ne peut pas faire du groupe. Quand on joue une scène où on est plusieurs, on ne peut pas le faire en distanciel. Ça a vraiment laissé beaucoup de gens de côté, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on n'a plus cours et que les élèves, par exemple, de cycle 1 et cycle 2 n'ont plus cours, c'est parce qu'on considère que même le distanciel, c'est pas vraiment un cours. Apprendre d'une œuvre, la lire, la comprendre, on peut le faire seul chez soi, en soi. Mais c'est toujours un plus d'en discuter avec les autres, de se rencontrer, d'échanger véritablement. Et petite chose toute bête, aujourd'hui, vous venez de nous voir, vous venez de discuter avec nous. Vous auriez très bien pu le faire en distanciel. Ben non, vous décidez de venir nous voir, discuter avec nous, avoir cet échange direct. Et c'est ça qui fait que les relations sont humaines, en fait.
Depuis le mois de mars l'année dernière, on n'a pas cours parce qu'il y a eu le confinement total, puis les vacances d'été, donc on n'a pas eu non plus d'examen l'année dernière. On a repris un petit peu en septembre, mais ça, on avait le masque et ça a duré 4 cours. Et après, on nous a interdit de faire du théâtre. Ça a été très difficile en vrai de... Un an sans théâtre, nous qui consacrons notre vie, enfin pas tellement puisqu'on n'a pas le statut étudiant et qu'on est obligé de faire plein de choses à côté et d'avoir un job à côté pour subvenir à nos besoins et on ne peut pas se consacrer totalement à notre formation. Et l'envie de faire du théâtre étant très très forte pour nous mais aussi pour les professionnels, nous occupons le quai et on a mis en place... l'école populaire d'auto-formation qui nous permet de faire du théâtre car les professionnels qui occupent le quai avec nous animent des ateliers, donnent des cours de théâtre ouverts à tout le monde, pas que aux élèves de filière artistique d'Angers, mais les professionnels et toute personne peut venir au quai pour y assister. Là, ça fait du bien de faire un petit peu de théâtre. Vraiment, ça a été compliqué parce que moi, j'essayais quand même de garder espoir, de garder la pêche, de faire du théâtre chez moi, mais c'est très, très compliqué. Après, il y a eu l'été, la reprise, et là, on s'est dit « oui, on va y arriver !» Et en fait, non, ça recommence et on nous interdit. Donc c'est vachement de vagues qui font qu'on a l'impression aussi qu'on joue un peu avec nous et on en a marre de jouer.
Moi, la vie depuis un an est d'une platitude complète, n'ayant pas le droit d'avoir de me former et mes professeurs n'ayant pas le droit de m'enseigner quoi que ce soit. C'est une succession de journées, de réflexions, de pensées et de recherches, ce qui est au moins le bon côté de la chose puisque j'ai encore le droit de penser mais j'ai pas le droit de faire. Et le mouvement d'occupation nationale des théâtres moi m'a tout de suite plu. D'ailleurs j'ai hésité à aller sur Paris mais j'ai vu que l'Odéon était réservé aux professionnels, aux intermittents, aux syndicats, et donc je n'y étais pas forcément à ma place.
Alors que là, à Angers, il y a les élèves et les professionnels.
Exactement. À Angers, au quai, on a les élèves qui ont initié les débats et l'occupation, invités. Ils ont invité ensuite les professionnels, et maintenant on est tous ensemble dans cette occupation. Par exemple, à Paris, il y a les professionnels à l'Odéon et les élèves de conservatoires régionaux et le conservatoire national qui sont à la Colline, à Strasbourg, au TNS, etc. Là, on est tous ensemble dans ce grand forum. C'est d'ailleurs drôle qu'il s'appelle forum parce que ça correspond tout à fait à ce qu'on veut faire. Et oui, du coup, cette école populaire d'auto-formation, elle répond à plusieurs choses. Déjà, à tout ce que j'estime avoir manqué en une année, mais aussi à envisager l'avenir parce que Moi, j'envisage l'occupation comme une source de réflexion pour des solutions. C'est pas juste une tribune pour dire qu'on n'est pas content. Et d'ailleurs, l'auto-formation, je crois, parmi la soixantaine de théâtres occupés, on est la seule à la pratiquer. On est peut-être les seuls à y avoir pensé, d'ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça marche, puisque ça permet d'unir les élèves en formation avec les professionnels. Or, dans les filières artistiques, on manque de professionnalisation. Peut-être parce que l'art est aussi quelque chose où il y a des histoires d'ego d'artistes. Enfin, c'est peut-être pas non plus un milieu qui peut paraître comme ça uni de prime abord. Et donc la professionnalisation peut être une lacune. Là, j'ai l'impression qu'on commence à y pallier. Et aussi, évidemment, de mener des revendications en occupant un lieu et en se servant aussi de l'appui des professionnels qui ont l'habitude de revendiquer des choses, également les syndicats, pour nous aussi faire valoir nos droits. Oui, j'étais bien sûr content de retourner au théâtre. D'ailleurs, le premier spectacle que j'ai revu, c'était OK. Enfin, c'était ici pour quel été. Et c'est d'ailleurs drôle d'y revenir du coup pour l'occuper. Et j'étais très content. J'en ai d'ailleurs beaucoup profité, pensant que ça allait continuer. Et quelle déception que de ressentir à nouveau l'interdiction de, j'allais dire, de manger de la culture. Mais moi, j'envisage vraiment, et je vais en faire mon métier aussi, mais j'envisage vraiment la culture comme un bien essentiel et nécessaire. Autant que respirer, marcher librement dans la rue, s'exprimer.
Les occupantes et occupants du quai comptent également se rendre dans les rues d'Angers pour faire entendre leurs revendications, dialoguer avec le public et bien sûr, l'inviter à se joindre à leur lutte. L'occasion aussi peut-être de parler culture et théâtre avant une réouverture, dont la date n'a pour l'heure pas été annoncée.
De retour dans la Covidienne sur Radio Campus Angers et on accueille Léo et Louis qui sont un peu nos Dupont et Dupont de la géopolitique, j'ai envie de dire. Alors, de quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on va parler de la dette économique parce que c'est vraiment ce qui fait débat. Est-ce qu'il faut annuler la dette ? Est-ce qu'il faut la rembourser ? Et donc, on va tenter de décrypter les enjeux qui en découlent.
Concrètement, la dette, quel est son montant, son pourcentage de PIB en ce moment ?
Alors la dette, elle a atteint 2 700 milliards d'euros et ça correspond aujourd'hui à 120% du PIB et donc en fait la France est le cinquième pays européen le plus endetté.
Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle ait explosé ? Si on était déjà à 100% avant la crise sanitaire, j'imagine qu'il y a d'autres crises qui avaient déjà mises mal en point.
Oui, forcément. En fait, ce qui s'est passé déjà, c'est que, comme tu l'as expliqué, pendant la crise sanitaire, la dette, elle est passée de 100 à 120% du PIB. Et en fait, c'est clairement le prix des mesures pour lutter contre l'épidémie. Puis c'est aussi l'évolution qui fait ça. Parce que si on regarde, en 1978, la dette, elle était environ à 21%. La crise financière de 2008 l'a emmenée à 80%. Et aujourd'hui, on en est à 122%.
Et à 122% d'endettement, on est sur quelque chose d'insurmontable ?
Eh bien, là, encore une fois, et c'est ce qui fait tout le débat, c'est tous les économistes se séparent sur la question. Bon, déjà, il s'accorde quand même pour dire que la dette publique accumulée, elle est trop élevée pour être honorée dans son ensemble, et il propose quelques solutions pour pouvoir la surmonter, et pour pouvoir trouver la somme, notamment l'augmentation des impôts, ou alors la diminution du service public, des services publics, mais bon, ça a des conséquences sociales désastreuses. Ou alors, en fait, une autre tactique, ça serait que les États européens puissent emprunter à des taux d'intérêt très bas, voire négatifs, et ces emprunts permettraient de soutenir l'économie pour honorer les emprunts passés. Ça s'appelle rouler la dette. En fait, la charge de la dette finirait par complètement diminuer. La charge de la dette, c'est le montant des remboursements liés aux intérêts des emprunts.
Mais on parle de dette publique, c'est notre argent qui est en jeu. Qui détient la dette concrètement ?
Eh ben, la dette, elle est détenue par des États, par des banques, par des compagnies d'assurance. Et puis 25% de notre dette européenne est détenue par la Banque Centrale Européenne. Ça représente 2500 milliards d'euros. Et en fait, pour la France, ça représente 570 milliards d'euros. Et alors, les économistes se questionnent si la Banque Centrale, est-ce que la Banque Centrale peut annuler cette dette ? Ben, en fait, ça ne serait pas forcément très utile parce que la Banque Centrale, c'est juste un intermédiaire des prêts. Donc, au final, l'annulation de la dette des États, ça reste. Il y aurait toujours une dette qui appartiendrait à la BCE et donc à l'Union européenne. Et puis Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, elle explique que ça serait aussi une violation du traité européen, cette annulation de la dette, et que ça amènerait à une interdiction du financement monétaire des États.
Mais la dette, c'est pas un sujet nouveau. Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant ?
Eh ben, si on en parle maintenant, en fait, c'est que la dette aujourd'hui, c'est un sujet politique dont on parle dans l'actualité, parce que par exemple, Bayrou réclame un nouveau plan Marshall pour doper l'économie avec 200 à 250 milliards d'euros pour la relance. Bruno Le Maire, lui aussi, s'engage pour que la dette soit remboursée grâce à la croissance, grâce à la maîtrise des publique et des réformes. Et puis, en fait, il y a eu 77 milliards à ce jour de dépenses pour le chômage partiel, les fonds de solidarité et les exonérations. Et pour beaucoup de personnes, en fait, il faut quand même attendre de sortir de la crise pour faire des trajectoires budgétaires, mais c'est un sujet forcément qui touche tous les politiques.
Et pour la suite, quelles sont les perspectives ?
Bon, alors il y a eu Jean Arthuis, le président à la Commission pour l'avenir des dépenses publiques, qui a fait plusieurs constats. En fait, il a expliqué que si la croissance restait à 1,5%, alors la dette française gonflerait à 128% du PIB en 2030. En fait, lui, il prône une dépense publique raisonnable, une croissance correcte et des taux bas, mais cela apparemment ne suffira pas pour absorber complètement le choc de la crise. En fait, la crise, elle a coûté 215 milliards d'euros à la France. Et Bruno Le Maire, donc l'actuel ministre de l'économie, il veut aussi débattre, donc comme je l'ai expliqué après, mais il a expliqué aujourd'hui qu'il veut consacrer une part de la hausse des recettes de l'impôt sur les sociétés au remboursement, donc c'est-à-dire que le bénéfice des sociétés et des entreprises, celles qui ont reçu le plus d'aide pendant la pandémie, devront rembourser davantage, mais cependant c'est quand même hors de question d'augmenter les impôts.
On est un peu dans une position de dilemme finalement.
On est complètement dans un dilemme. La fin du Covid, c'est ce qui permettra de sortir de ce dilemme. Forcément, il y a plein de moyens de rembourser tout de même. Les économies sont divisées à l'image des politiques. Est-ce qu'il faut ou pas rembourser la dette ? Bruno Le Maire l'a expliqué, c'est pas la question aujourd'hui. Pour changer d'habitude, en fait, ça sera aux jeunes de s'occuper des problèmes de l'avenir.
Merci à tous les deux. Eh bien, ça fait plaisir de voir qu'on a toujours que la sacro-sainte croissance à l'horizon. Il va être, quant à nous, temps de nous quitter. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Ce soir, c'est mardi soir. Vous retrouverez, comme d'habitude, le 3615 Chill Out ainsi qu'Electric Troubles. On se retrouve, quant à nous, demain pour une nouvelle Covidienne. D'ici là, portez-vous bien. Très belle soirée à toutes et à tous.